Le chemin de la prière victorieuse. Docteur Zacharia Tanifomom. Édition Parole de VBP. 3-3-920 Codonier en France. Copyright 1991 Docteur Zacharia Tanifomom BP. 6090 Yaoundé de Cameroun ISBN 2-9503150-7-0. Tous droits réservés, je dédie joyeusement ce livre aux intercesseurs jeûnants, pour le Cameroun en profonde reconnaissance, pour leurs prières qui transforment la nation. Table des matières. Préface, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Qu'est-ce que là ? Prière ? 7, le Seigneur Jésus en prière. 15. La prière, un combat spirituel. 21. L'art spirituel de la prière, la volonté de Dieu et l'attente devant Dieu. 37. L'art spirituel de la prière, les besoins personnels du croyant. 47. L'art spirituel de la prière, les limitations de Dieu. 61. La louange et l'action de grâce. 67. L'importunité. 83. La supplication. 93. L'intercession. 103. Le jeûne. 117. Prier par l'esprit. 139. L'église locale en prière. 1. 147. L'église locale en prière. 2. 175. Annexe. 189. Préface. Ce livre est né de la prière. Le Seigneur appela un jour certains de nous à se mettre à l'écart pour prier. Chaque nuit, nous luttâmes dans la prière, entre 21h et 3h du matin. Cela dura plusieurs semaines. Nous fûmes bénis, stimulés et purifiés. Nous avons découvert le Seigneur d'une manière renouvelée et nous avons compris le but de notre existence dans une lumière totalement nouvelle. Ce livre est aussi né d'une expérience, une expérience d'obéissance. Quelques-uns parmi nous ont été conduits à obéir à un ordre du Seigneur, pourtant clairement écrit dans la Bible et auquel nous n'avions pas encore obéi. Cette obéissance nous a presque coûté la vie. Dieu a honoré cette obéissance et a permis qu'elle conduise à l'éclosion des ministères qui sont maintenant associés au Centre de littérature chrétienne à Yaoundé. Elle a aussi conduit à la naissance d'un certain nombre d'assemblées qui, par la grâce de Dieu, sont devenues des communautés de prière. Les vérités présentées dans ce livre sont illustrées par ce que cette assemblée locale a appris en s'efforçant de suivre pas à pas un Seigneur qui lui-même prie et qui est le maître dans l'école de la prière. Nous nous sommes engagés à prier, à jeûner et à évangéliser. Nous continuons à apprendre et à grandir. Priez pour nous. Priez avec nous. Nous avons découvert que tout est possible à un saint qui prie, à un corps de croyants qui prie. Par la grâce de Dieu, nous sommes déterminés à effacer le mot impossible de l'expérience de la vie des membres de notre assemblée. Le désir de notre cœur est que tous ceux qui connaissent le Seigneur Jésus deviennent véritablement un peuple qui prie. Nous publions donc ce livre en priant qu'il aide les chrétiens à aller. Page 4. Assemblée locale à progresser avec le Seigneur à l'école de la prière. Au Seigneur Jésus, la tête de l'Église, à celui qui prie, supplie, intercède, soit l'honneur, la gloire et la majesté pour l'éternité. Zacharia Tanifomom. Page 5. Chapitre 1. Qu'est-ce que la prière ? La prière naît lorsque la volonté d'un croyant s'unit à la volonté de Dieu pour l'adorer, le remercier, le louer, lui présenter une demande, ainsi que recevoir de lui la réponse. Cette union de l'esprit de l'homme à la volonté de Dieu s'exprime d'une façon active et vocale. La prière, pour une âme, est l'art de se perdre en Dieu, en l'adorant et en le glorifiant. C'est insister sur le fait que la volonté de Dieu, pourtant déjà établie dans le ciel, soit accomplie ici-bas. La prière est l'engagement d'un croyant à accomplir et à satisfaire les besoins de Dieu. La prière est le rail sur lequel se déplace la locomotive de la volonté de Dieu. Le ciel gouverne par la terre. Dieu a une volonté et dispose de toute la puissance nécessaire pour accomplir cette volonté sans recourir à l'homme. Cependant, dans sa souveraineté, il a décidé de laisser sa volonté inaccomplie pendant un certain temps, tant qu'il n'a pas trouvé ceux qui veulent coopérer avec lui par la prière. La Bible dit, en vérité, je vous le dis, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Matthieu 18, 18. Le ciel a déjà lié et le ciel a déjà délié. Que doit-il donc se passer pour que ce qui a été lié ou délié dans le ciel devienne une réalité pratique sur la terre ? Voici ce qui doit se passer. Il faut que la terre, liée, que la terre délie, sinon ce qui a été fait dans le ciel sera forcé d'attendre. Dieu permettra que beaucoup de ses résolutions restent inaccomplies pendant quelque temps s'il ne trouve personne pour coopérer avec lui dans la prière. Dieu retardera son œuvre ou encore permettra qu'elle apparaisse comme une œuvre dont il ne se soucie point jusqu'à ce qu'il trouve un homme capable de prier et qui prie effectivement. Il permettra qu'un pays reste pendant plusieurs années sans qu'il s'y passe grand-chose jusqu'à ce qu'il ait trouvé l'homme qu'il recherche. Page 7. Un homme de prière? C'est alors qu'il agira d'une manière très puissante. Dieu permettra temporairement au diable de remporter de nombreuses batailles s'il ne trouve pas d'hommes qui veulent coopérer avec lui pour renverser le diable et mettre en fuite les armées de l'enfer. Des hommes qui prient la prière exigent des hommes qui soient entièrement consacrés au Seigneur, car seuls ceux-là sont capables de connaître la volonté et les besoins de Dieu. De tels saints ont pour ambition de satisfaire les besoins de Dieu. Leur unique désir est d'accomplir dans sa totalité la volonté de Dieu sur la terre. Seuls ceux qui sont entièrement consacrés peuvent vraiment prier, car ce sont ceux qui s'oublient eux-mêmes pour accomplir la volonté de Dieu. À propos de la prière, le Seigneur Jésus a enseigné que nous devons avant toute chose commencer par que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel Matthieu 6, 9-10. C'est le point crucial de la prière, l'essence même de la prière. La prière est l'abandon total de soi à Dieu, avec l'unique préoccupation que son nom soit sanctifié et que sa volonté soit faite. Cela fait de la prière une affaire très sainte et seul celui qui est saint peut entrer dans une profonde communion de prière avec le Dieu Saint. Les exploiteurs, c'est-à-dire ceux qui ne cherchent qu'à obtenir quelque chose de Dieu, pour des motifs égoïstes, trouveront impossible de prier d'une manière profonde parce que tout ce qu'ils désirent, c'est mon Dieu, donne-moi ceci, donne-moi cela. Demander et recevoir la prière consiste à demander au Seigneur quelle est sa volonté parfaite et, l'ayant connue, à accomplir cette volonté. Le Seigneur Jésus a dit « Demandez et vous recevrez ». Demander sans recevoir est une affaire très sérieuse qui ne devrait, en aucune façon, être prise à la légère. Si un croyant demande quelque chose au... Page 8. Seigneur et ne la reçoit pas, il devrait considérer cela comme le signal d'un danger spirituel. La prière ne consiste pas seulement à demander et à recevoir des choses qui sont exclusivement pour le royaume, mais aussi à demander aujourd'hui le repas du lendemain. Le Seigneur Jésus a dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus » Matthieu 6, 33. Lorsque le cœur d'un homme est droit devant Dieu et devant sa volonté parfaite, ses priorités ne sont pas ses besoins de tous les jours, mais plutôt ceux du Seigneur. Il juge chaque chose de la manière dont elle affecte la volonté de Dieu. Même ses besoins personnels sont réévalués à la lumière du roi. Il vit pour voir l'instauration du royaume de Dieu. Il s'habille, mange, étudie et se marie pour le royaume. Il se sert de cette mesure constante pour évaluer toute chose, est-ce de Dieu ou du diable? Est-ce que cela bâtit le royaume de Dieu ou est-ce que cela le retarde? C'est une tragédie que de prier pour des choses qui retardent le royaume de Dieu, mais ô combien nombreux sont les fils du royaume qui prient de cette manière. La prière est un rail, la prière est le rail sur lequel se déplace le train de la puissance de Dieu. Une énorme locomotive dont le moteur est assez puissant ne pourra pas cependant effectuer le moindre mouvement s'il n'y a pas de rails sur lesquels elle puisse se déplacer. Dieu, dans sa merveilleuse souveraineté, a décidé de se limiter aux rails que l'Église met à sa disposition. Plus les rails de la prière faite par l'Église seront étendus, et plus la locomotive de la puissance de Dieu pourra se déplacer. Moins il y aura de rails, et moins la locomotive de la puissance de Dieu pourra se déplacer. Moins les hommes prient et moins Dieu agit. Nous savons, dans notre assemblée locale, qu'un seul traité conduit 4 personnes au Seigneur grâce à la prière de l'Église. Si la vie de prière était 3 fois plus intense dans l'assemblée locale, le train de la puissance de Dieu aurait 3 fois plus de rails sur lesquels se déplacer et un traité conduirait 12 personnes au Seigneur. Si l'Église priait 100 fois plus, un traité conduirait 400 personnes à Christ. Je crois que nous pouvons multiplier par 100 notre vie de prière, et cela devrait être notre but. Page 9. La prière est un combat dans des circonstances normales, La prière consiste tout simplement à demander quelque chose au Seigneur, comme un enfant demande à son père « Papa, donne-moi ceci ou cela » et à recevoir de lui l'exaucement, sans effort, ni agonie, ni insistance. Effectivement, cela est vrai pour certains aspects de la prière et à certaines occasions. Cependant, dans plusieurs situations, ce n'est pas le cas. Nous devons déployer des efforts, agoniser, insister pour que nous puissions obtenir du Seigneur ce que nous désirons. Pourquoi en est-il ainsi? Pourquoi ce combat? La raison de ce combat réside dans la nature même de ceux qui sont concernés ou affectés par la prière. La prière implique trois personnes: la personne qui prie, Dieu à qui l'on adresse la prière, et une troisième personne que beaucoup ne connaissent pas pour leur propre perte. C'est notre ennemi, Satan, qui s'oppose à la prière, l'entrave et la retarde. La prière est donc une opposition violente à la volonté du diable. C'est une destruction impitoyable de ses plans et de son armée. La prière est un rude labeur. C'est une activité violente. Plus on se met à prier, et plus le diable est mis en déroute. Moins on prie, et moins la cause du diable souffre. Si le diable a tant d'autorité aujourd'hui dans le monde, c'est à cause des nombreux spectateurs qui sont dans l'église et qui ne prient pas ou qui prient trop peu. Ce combat contre le malin signifie que la prière implique souvent des pleurs, des larmes, des soupirs, une agonie, une angoisse et une lutte. La prière profonde est un conflit coûteux. Comme il est triste de savoir que très peu d'enfants de Dieu en savent quelque chose. Puissions-nous grandir pour affronter le combat dans la prière? Puissions-nous faire grandir en nous une sainte colère contre l'ennemi? Puissions-nous dire « Satan, tu vas avoir affaire à moi. Au nom de Jésus, je m'élève contre toi et ton royaume, et je ne l'épargnerai point. » Page 10. La prière est un travail de persévérance. Certains croyants prient une ou deux fois, ou pendant une ou deux années, lorsqu'ils ne voient pas l'exaucement, ils se découragent et disent « Dieu n'a pas exaucé. » Alléluia. Si, après avoir prié pour un non-croyant pendant 4 ou 5 ans sans que celui-ci se convertisse, nous cessons de prier, cela démontre que nous n'avons jamais été sérieux. Dieu doit exaucer. Parfois, il exaucera avant que nous ayons fait appel à lui. Dans d'autres cas, il répondra longtemps après que nous l'ayons appelé. Si nous sommes dans sa volonté, nous ne pouvons pas abandonner un sujet de prière tant que la réponse ne nous a pas été donnée. Ceux qui pensent que la prière est une technique moderne gérée par un ordinateur par laquelle on introduit les données du problème et on appuie sur un bouton pour obtenir la solution, sont passés totalement à côté. Un jour que le Seigneur Jésus enseignait sur la persévérance dans la prière, il a dit « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Pourquoi posa-t-il cette question? Voici la réponse: seul celui qui a une foi authentique peut s'engager dans une véritable prière. Ce qui est triste, c'est que si le Seigneur revenait aujourd'hui, il trouverait très peu de personnes qui ont cette foi authentique. Ceux qui ont une foi authentique ne sont pas des magiciens qui se contentent tout simplement de dire au nom de Jésus « Lève-toi et marche ». Ce sont des lutteurs qui jettent toute leur force dans le combat et qui n'abandonnent jamais. Pierre et Jean pouvaient dire au nom de Jésus « Lève-toi et marche » acte 3, 6. Mais rappelons-nous que c'étaient des hommes de prière, membres d'une église qui priaient. Ainsi, en abordant la prière, ayons à l'esprit que la prière est une affaire qui engage totalement ceux qui sont totalement consacrés. Alors que nous étudions ce sujet, que celui qui prie pour nous par des soupirs inexprimables, le Saint-Esprit, ainsi que notre souverain sacrificateur et intercesseur, le Seigneur Jésus, nous assiste pour nous révéler sa vérité et nous fasse aller de l'avant. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Amen. Page 11. Qu'est-ce que le manque de prière? Le manque de prière, c'est le refus de saisir les armes puissantes de la prière et de s'engager avec Dieu dans ses combats. Le manque de prière, c'est une prière trop limitée ou inefficace. Le manque de prière, c'est une rébellion absolue. C'est un refus délibéré d'obéir au commandement de Dieu qui invite les hommes à prier. Le manque de prière est un grand péché. C'est une détermination à prendre une part active aux côtés du diable pour lutter contre Dieu. C'est un ferme engagement à frustrer les desseins de Dieu et à ruiner le royaume de Dieu. Le manque de prière est un effort déterminé pour assurer la perte éternelle des pécheurs dans le lac de feu. C'est un effort calculé pour s'assurer que les rétrogrades ne soient jamais restaurés dans le Seigneur et que la victoire finale revienne aux malins. Tous ceux qui ne prient pas se font ennemis du Seigneur, qui lui-même prie. Si des âmes périssent, c'est parce qu'il y a des croyants qui ne prient pas, car aucune âme n'est gagnée dans le royaume de Dieu sans que le prix n'ait été payé par une prière indispensable. Chaque âme laissée au diable est perdue parce que l'Église n'a pas prié du tout ou parce qu'elle n'a pas prié efficacement. Au jour du jugement, les croyants qui n'auront pas suffisamment prié rendront compte au Seigneur de toutes les âmes qui auront péri pour toujours. Ils seront coupables du sang de ces personnes. Cher saint, le péché le plus terrible que tu puisses commettre en tant qu'enfant de Dieu est de prier superficiellement ou de ne pas prier du tout. Le manque de prière est une autre trahison contre le gouvernement de Dieu. C'est trahir Dieu ainsi que toute la cause du royaume de Dieu. Le manque de prière est la manière de vivre de l'insensé, c'est le propre du paresseux et le chemin d'une vie où l'on a opté pour l'obscurité et la pauvreté spirituelle. Tu ne dois pas oser te permettre le luxe de commettre un si grand péché. Page 12. Pense à la conversion de Saul, devenu plus tard l'apôtre Paul. Certaines personnes pensent que cette conversion est simplement arrivée comme cela. De telles personnes n'imaginent pas combien de gens ont prié uniquement pour cet homme qui terrorisait l'Église. Chaque fois que les croyants se réunissaient, ils priaient certainement pour lui. En réponse à leurs prières, Dieu l'amena à la conversion et à la nouvelle naissance. Saul ne se serait jamais converti sans les prières de l'Église. Les églises qui prient sont des églises vivantes et les églises vivantes sont des églises qui grandissent. S'il y a une chose à faire maintenant pour la gloire de Dieu, c'est bien prier. J'encourage chaque croyant à prier et à réunir des hommes et des femmes pour prier. N'aie pas l'audace de te lever pour diriger une réunion de prière, de prier ou de chanter pour le Seigneur si tu n'as pas toi-même une vie de prière active. N'aie pas l'audace de prêcher aux hommes et de leur parler de Dieu sans avoir d'abord parlé d'eux au Seigneur dans la prière. Si tu prêches sans beaucoup prier, tu vas à l'encontre des desseins de Dieu. Je t'en supplie, je le répète, prie. Page 13, chapitre 2. Le Seigneur Jésus en prière. Le Seigneur Jésus était consacré à la prière? Il priait? Sa vie et son ministère commencèrent dans la prière et s'achevèrent dans la prière? Dès l'âge tendre de 12 ans, il était resté dans le temple. Et lorsque ses parents, anxieux, le trouvèrent et l'interrogèrent, il leur dit tout simplement: « Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Luc 2, 49. Il était dans la maison de son père, une maison de prière. Marc 11, 17, et il va sans dire qu'il avait dû prier. Plus tard, lors de son baptême d'eau par Jean-Baptiste, il se mit immédiatement à prier. Pendant qu'il priait, le Saint-Esprit vint sur lui. La Bible dit où le peuple se faisait baptiser, Jésus fut aussi baptisé, et, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, et le Saint-Esprit descendit sur lui. Luc 3, 21-22. Il avait fait de la prière sa manière de vivre. La Bible dit: vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert, où il pria. Marc 1, 35. La prière était la préoccupation première du Seigneur? Il avait décidé de ne pas voir la face d'un homme avant d'avoir vu la face de son père et de ne pas parler aux hommes de son père sans avoir parlé des hommes à son père. Face au problème crucial que représentait le choix des 12 apôtres, il pensa qu'une décision aussi sérieuse exigea qu'il passe beaucoup plus de temps dans la présence de son père que lorsqu'il sortait d'habitude les autres matins pour prier. Ainsi, il passa toute la nuit à prier. La Bible dit: en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12, auquel il donna le nom d'apôtre. Luc 6, 12-13. C'était de cette manière que le Seigneur prenait les décisions. Page 15. Sérieuse, dont les conséquences allaient être d'une grande portée. Le Seigneur Jésus était toujours en prière? Il se retirait souvent dans des endroits solitaires et là, il priait seul. La Bible dit un jour que Jésus priait à l'écart, ayant avec lui ses disciples. Luc 9, 18. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces choses, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Luc 9, 28-29. Et lui, il se retirait dans les déserts, et priait. Luc 5, 16. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans une barque et à passer avant lui de l'autre côté, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier Marc 6, 45-46. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémané, et il dit aux disciples « Asseyez-vous, ici pendant que je m'éloignerai pour prier ». Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit « Alors mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi ». Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi mon Père. Matthieu 26, 36-39. Jésus savait que la prière profonde était une affaire entre Dieu et la personne qui prie, une affaire qui ne devait être perturbée par personne. Ainsi, il se retirait très souvent dans des endroits solitaires. Parfois, il a dû prier tout simplement avec ses disciples auprès de lui, comme lors de l'incident que mentionne Luc. Jésus prie un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier ». Luc 11, 1. Parfois, il prenait quelques-uns d'entre eux avec lui pour prier à l'écart, mais les plus précieux moments de sa vie étaient ceux qu'il passait seul avec Dieu, loin de tous. Il devait tellement apprécier ces moments que, d'une façon naturelle, il se retirait simplement pour les passer avec son Père. Bien qu'il ait vécu dans une communion constante avec son Père, il trouvait pourtant toute sa joie à passer ce précieux moment où il se retrouvait seul avec son Père et où il pouvait entrer dans une communion semblable à celle qu'il connaissait ensemble au ciel, avant sa venue sur terre. Jésus vivait pratiquement dans l'attente de ces moments de... Page 16. Communion que lui offrait la prière. Ces moments signifiaient tout pour lui. Tous ceux qui prient éprouvent toujours de la joie à être dans une communion constante avec Dieu, mais ils sont plus tard amenés à connaître Dieu et à trouver en lui une joie telle que les moments de communion générale ne peuvent plus les satisfaire pleinement. Ils cherchent donc l'intimité avec lui. Ils se retirent du monde pour être avec lui. Ils le désirent, soupirent après lui et demeurent sur leur faim tant qu'il ne les a pas satisfaits. Ainsi nous voyons que pour Jésus, la prière consistait avant tout non pas à demander et à recevoir, mais à être en communion avec Dieu, à rechercher son intimité et à trouver sa joie en Dieu. C'était une communion entre deux cœurs. Deuxièmement, pour Jésus, la prière était le moyen de connaître la ligne de conduite de Dieu. Il savait qu'il devait choisir 12 apôtres parmi ses nombreux disciples. Il savait déjà peut-être dans son cœur quels étaient ceux qui pouvaient être choisis. Il était Dieu lui-même, mais malgré cela, il alla sur la montagne pour prier le Père, pour rechercher une confirmation auprès de lui. Il y passa toute la nuit, passant les noms en revue et demandant l'approbation du Père. Lorsque le Père eut donné son approbation, il descendit et fit son choix. Et ce choix eut des conséquences dans le temps et dans l'éternité. Troisièmement, la prière était un combat pour Jésus. Il connaissait la volonté du Père. Il connaissait aussi la détermination de l'ennemi à contrecarrer cette volonté. Il accomplissait la volonté du Père en s'opposant à la volonté du diable. En priant, il s'engageait dans un violent conflit contre le diable. Sa sueur devint un jour comme des grumeaux de sang alors qu'il priait pour accomplir la volonté du Père jusqu'à la victoire totale. Ainsi, durant toute sa vie, chaque fois qu'il se rendait compte d'une attaque violente, contre la volonté de son Père, il se retirait pour prier jusqu'à ce qu'il ait repoussé la vague de l'attaque de l'ennemi. Page 17. Quatrièmement, la vie de prière du Seigneur était une vie d'intercession puissante et violente. Il intercédait réellement. À partir du moment où il choisit les apôtres et les mit à part, il dut certainement intercéder pour eux, que ce soit individuellement ou en tant qu'équipe. Combien il a dû intercéder pour Pierre ? Lui-même a dit « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères » Luc 22, 3-32. Pierre fut réellement éprouvé et même il chuta, mais il se repentit et se releva. Si Jésus n'avait pas intercédé pour lui, il aurait échoué de manière absolue. La contribution de Pierre à l'Église ne dépendait pas tant de Pierre, que du Seigneur qui l'avait appelé et qui priait pour lui dans ses moments de faiblesse extrême. Le ministère d'intercession du Seigneur était d'une importance si grande que c'est l'un des ministères qu'il continue à accomplir maintenant sur son trône de toute gloire. Cinquièmement, la prière était pour Jésus une question d'importunité. Ce n'est pas qu'il doutait de l'amour de Dieu ou de son désir d'accomplir certaines choses. Mais il savait tout simplement que des merveilles se passent dans le monde spirituel lorsque celui qui prie tient à sa requête et persiste dans la prière. Il s'engagea dans une prière semblable quand, à Gethsémané, il pria non seulement une ou deux fois, mais trois fois au sujet de la coupe. C'était l'importunité même qui était alors pratiquée par le Seigneur. Il priait selon les volontés du Père, cependant, il importunait Dieu. Quel exemple ? Sixièmement, la prière consistait pour Jésus à veiller. Il dit à ses disciples de veiller et de prier. Il devait certainement le leur dire en raison d'une expérience personnelle profonde. Il veillait et priait tellement qu'il dut insister là-dessus. Il dit veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Matthieu 26, 41. Le Seigneur demanda aux disciples endormis, vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi. Matthieu 26, 40. Le Seigneur lui-même était, évidemment, en train de veiller et cela l'attristait de voir que les disciples, qui lui étaient les plus proches, ne pouvaient veiller avec lui. Page 18. Septièmement, la prière était pour Jésus le moyen de demander quelque chose au Père et de recevoir de lui. Il demanda au Père de ressusciter Lazare d'entre les morts et le Père lui répondit par l'affirmative Jean 11, 41-44. Il demanda au Père de le glorifier. En fait, il pria ainsi, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût Jean 17, 1-5. Le Père exauça aussi cette prière, car l'apôtre Pierre, parlant du Seigneur ressuscité, dit le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué et en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur, Actes 5, 30-31. Jésus a reçu l'exaucement de toutes les prières qu'il a faites, parce qu'il remplissait toutes les exigences de Dieu pour l'être exaucé. La huitième chose concernant la vie de prière du Seigneur Jésus, c'est qu'il priait pour l'Église. Il priait comme ceci, je leur ai donné ta parole, et le monde les haït, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé, Jean 17, 14-26. La neuvième chose concernant la vie de prière du Seigneur Jésus, c'est qu'il suppliait. Il priait profondément et avec beaucoup d'ardeur. La Bible dit ceci de lui, celui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété, Hébreux 5, 7. La dixième chose au sujet de la vie de prière du Seigneur Jésus, c'est qu'il enseignait aux hommes à prier et leur ordonnait de. Page 19. Prier. Il dit à ses disciples, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Luc 11, 1-13. Il les encourageait à prier pour des ouvriers, car il leur dit la moisson est grande mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Matthieu 9, 37-38. Le Seigneur ne se contentait pas de prier, il voulait aussi que les autres prient. Sa préoccupation, aujourd'hui, est qu'il y ait des hommes et des femmes qui, hormis leur prière personnelle, enseignent aux autres à prier et à former ceux qui enseignent le saint art de la prière. La onzième chose concernant la vie de prière du Seigneur Jésus, c'est qu'il avait compris que la prière et le jeûne vont de pair. Lui-même jeûnait et priait. Ses disciples jeûnaient et priaient, et l'Église victorieuse continue à être une Église qui jeûne et qui prie. La dernière chose que nous aimerions dire au sujet de la vie de prière du Seigneur, c'est que sa vie terrestre, ainsi vécue dans la puissance de la prière, se termina dans la prière. Ses derniers mots furent une prière, Père, je remets mon esprit entre tes mains. et en disant ces paroles, il expira Luc 23, 46. Avant ce dernier acte d'adoration et de prière, il avait montré clairement que la prière serait exaucée si et seulement si elle remplissait les conditions requises par Dieu. Jésus est donc notre modèle suprême pour la prière? Nous ferions bien de le suivre à l'école de la prière et de nous asseoir à ses pieds pour être enseignés par lui. Ma prière aujourd'hui est que certains confessant à nouveau leur ignorance en ce qui concerne la prière et se tournent vers lui, le Seigneur de gloire, pour lui demander à nouveau « Seigneur, enseigne-nous à prier ». S'ils le font, par la puissance du Seigneur qui habite en eux, le Saint-Esprit les aidera dans leur faiblesse et dans leur ignorance. Il nous enseignera, intercédera pour nous et fera de nous des hommes capables d'enseigner à d'autres le saint art de la prière. Page 20. Chapitre 3. La prière, un combat spirituel, l'attaque du diable contre la prière et le chemin de la victoire du croyant. Nous avons dit que deux volontés maîtresses sont en conflit, la volonté du Père éternel et la volonté du Prince des ténèbres. Nous avons également dit que Dieu, dans sa souveraineté, permet temporairement que ses desseins restent inaccomplis et que le malin ait apparemment le dessus tant que les croyants ne prennent pas parti avec Dieu dans la prière par une décision active de leur volonté. En ce sens, la prière des enfants de Dieu devient la plus grande opposition possible à la cause de l'ennemi. Puisqu'il en est ainsi, le diable a mis en action des forces puissantes et utilise toutes les ressources de sa trinité, le diable, la chair et le monde, pour combattre la prière. S'il l'emporte dans ce domaine, il sera vainqueur. Au contraire, si l'Église l'emporte, alors la cause du diable souffrira une ruine tragique, mais ô combien glorieuse pour l'Église. Étudions maintenant comment il s'attaque à la prière, puis nous verrons quel est le chemin de la victoire, puisque l'Église n'a d'autre choix que de vaincre. De toute manière, Dieu sera finalement le vainqueur. L'attaque du diable contre la prière, un destructeur actif. Un jour, l'ennemi dit au Père éternel, en réponse à la question « D'où viens-tu ?» de parcourir la terre et de m'y promener de chemin. 7. Il est le Dieu de ce monde et il ne se repose ni ne dort. Il est loin de prendre des vacances. Si certains croyants se reposent ou prennent des vacances, je les invite à prendre conscience du fait que le diable ne prend pas de vacances. Il ne dort jamais. Il parcourt la terre et s'y promène. On pourrait se demander pourquoi reste-t-il éveillé? Pourquoi parcourt-il toute la terre? Page 21. L'apôtre Pierre nous donne la réponse. Il dit « Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » 1 Pierre 5, 8. Il se promène en rôdant comme un lion, prêt à attaquer à la moindre occasion. Qui veut-il attaquer? Il veut principalement attaquer les croyants dans le domaine de la prière, en les empêchant de prier, ou alors, s'il persévère, en les empêchant de prier d'une façon victorieuse. C'est sa stratégie maîtresse. Je supplie humblement tous les enfants de Dieu de constater avec moi que, jusqu'à présent, le monde entier n'a pas encore été évangélisé et que l'Église n'est pas encore sans tache et sans reproche, parce que le diable a remporté de grandes victoires dans sa lutte contre la prière. Que Dieu nous donne de comprendre que la victoire principale, en ce qui concerne l'évangélisation du monde, ne dépend ni des orateurs, ni des évangélistes, quoi qu'il soit nécessaire, mais de la prière. Le Seigneur ne viendra pas satisfaire les désirs de ceux qui spéculent sur les événements des derniers jours, mais il viendra satisfaire les désirs de ceux de ses adorateurs, qui préparent son retour et son règne par la prière. L'ennemi est à l'œuvre. L'Église va-t-elle se mettre à prier? Chaque aspect de la prière, l'intercession, la supplication, le jeûne, est actuellement attaqué par l'ennemi. Que Dieu ouvre nos yeux à cette réalité et que Dieu nous enseigne à déjouer ses attaques. Le diable s'active. Puissions-nous aussi nous activer. Le diable veut détruire. Puissions-nous le détruire auparavant. La destruction due à l'ignorance, le Seigneur dit que son peuple périt faute de connaissance. L'ignorance des croyants en général est stupéfiante en ce qui concerne la parole de Dieu, le chemin de la victoire, la vie de prière, etc. Le diable en est la cause. Il aveugle les croyants. Il aveugle les croyants et les maintient dans l'ignorance sur le fait qu'ils ont accès auprès du Père par le sang de son Fils. Il insiste sur le fait qu'ils ont péché et que s'ils adressent au Seigneur leurs prières, il ne les écoutera pas. Il pousse certains croyants à se charger d'un sentiment permanent de culpabilité pour des péchés qui ont été confessés et pardonnés, et il leur donne parfois, page 22, un sentiment de culpabilité pour des péchés qu'ils n'ont pas commis du tout. Là où il n'y a pas encore de péché, il fait croire aux croyants qu'il va bientôt commettre un terrible péché et, par conséquent, qu'il ne devrait pas prier. Il suggère à ceux qui ont péché de ne pas confesser leurs péchés sur le champ parce que Dieu est encore trop en colère contre eux pour les écouter et qu'il devrait laisser passer quelque temps pour que la colère de Dieu se calme. Peut-être alors pourront-ils les confesser et être écoutés. Il dit parfois à certains croyants de ne pas se fatiguer à confesser leurs péchés, mais d'attendre tout simplement parce que Dieu oubliera avec le temps. Tout cela a pour but de détruire les fondements de l'assurance avec laquelle nous devons venir au Père. La parole de Dieu dit car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses, au contraire, il a été tenté, comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Hébreux 4:15-16. Car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Éphésiens 2:18. Si le diable t'accuse pour un péché que tu as commis, confesse-le, abandonne-le et cite ensuite à Satan ces paroles des Écritures. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1:9. Après cela, dis-lui honte à toi, Satan, va-t'en. Il peut faire naître le doute en s'attaquant à la fidélité de Dieu. Il peut dire pense au sujet pour lequel tu as prié et prié, sans avoir de réponse. Dieu n'exauce pas les prières de tout le monde. Il a ses favoris. Tu n'es pas l'un d'eux. Ne te fatigue pas à prier, parce que tu ne recevras rien. Pour contrer cet argument, tu peux tout simplement lui ouvrir ton cahier de prières et lui rappeler quelques-uns des nombreux exaucements que tu as reçus en réponse à la prière. Rappelle-lui que Dieu t'a demandé de continuer à prier pour certains problèmes et que c'est justement le cas pour celui-ci. Dis au diable que tu es le bien-aimé de Dieu et que, par page 23, conséquent, Dieu te réserve ce qu'il a de meilleur. Cite-lui les paroles suivantes qui prouvent que tu es quelqu'un de spécial pour Dieu et de précieux à ses yeux, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ésaïe 43, 4. Rappelle-lui toutes les promesses faites par Dieu pour exaucer la prière. Cite-le-lui, l'une après l'autre, et ordonne-lui ensuite de s'en aller. Il peut aussi attaquer d'une façon plus dangereuse, en disant que tu n'as pas besoin de prier, que la prière est pour les faibles et pour les incapables. Il peut te dire que tu es très capable et il peut même te parler de toutes les capacités que tu as qui te permettront de réussir sans prier. Il peut citer les noms de plusieurs incroyants qui ont accompli de grandes choses sans la prière. C'est l'une des tentations les plus dangereuses. C'est une invitation à douter de Dieu et à mettre ta confiance en toi-même. C'est une invitation à la rébellion. Satan est tout simplement en train de te dire « Rebelle-toi comme moi, déclare ton indépendance vis-à-vis de Dieu ». La première réaction est de lui commander avec hardiesse et autorité de s'en aller. Confesse que sans Dieu, tu ne peux rien faire. Le Seigneur Jésus a dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, 5. Refuse de te rebeller. Dis-lui que toutes tes capacités viennent du Seigneur et qu'elles ne peuvent être utiles que lorsqu'elles lui sont soumises. Quant à la réussite des incroyants, cite-lui les paroles suivantes, « Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. » Psaume 37:1-2. Il peut aussi te tenter d'une autre manière, pour te conduire à l'indépendance, en te disant que si tu insistes, tu peux te contenter de prier pour les grandes choses, mais que tu ne dois pas tracasser Dieu pour les petites choses. Il va te suggérer d'agir ainsi pour te prouver que tu es mûr et que Dieu peut compter sur toi. Sache que Dieu ne peut compter que sur ceux qui comptent sur lui. Dis-lui que toi-même, tu n'as aucune force ni aucune capacité pour résoudre les petits problèmes. Dieu prend soin de chaque cheveu de ta tête et il n'en tombe pas un seul sans qu'il le sache. Que pourrait-il y avoir de plus petit qu'un cheveu? Déclare-lui cette vérité, rien n'est petit, rien n'est grand. Dieu seul est. Page 24. Grand, puis prie pour tous les menus détails de ta vie. Dieu s'en soucie. Crois-tu que je sois trop futile? Si tu le crois, c'est ton affaire, mais j'aimerais que tu saches qu'il y a quelques jours, je me suis placée devant un miroir et j'ai parlé à Dieu de tout mon corps, en le remerciant et en lui demandant de m'aider à rendre certaines parties de mon corps plus attrayantes. Voilà comment est mon Dieu et voilà un aspect de ma relation avec lui. Les attaques physiques contre la prière, si le diable ne réussit pas à nous convaincre de ne pas prier, il va s'engager à rendre les moments de prière aussi difficiles que possible. Tu dois certainement connaître un peu de ce sentiment de solitude extrême et de séparation totale d'avec Dieu qui parfois accable un saint lorsqu'il prie. C'est un sentiment qui vient du malin, il l'utilise souvent pour troubler et quelquefois pour ruiner la vie de prière des saints, même de ceux qui sont en voie de maturation. Nous devons aussi lui résister dans ce domaine. Dans de telles circonstances, je suggère que tu pries à haute voix et, s'il le faut, que tu cries. C'est un verset qui nous parle de la présence immuable de Dieu, à l'exemple de celui-ci, voici, « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde » Matthieu 28, 20. Cite-le à haute voix pour te rappeler la promesse de Dieu et par conséquent sa présence. Cite-le pour rappeler au Seigneur que tu as besoin de sa présence à ce moment précis, cite-le également pour rappeler au diable qu'il a échoué.